C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Nidas change votre peau, au temps du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Passons au jardin, voulez-vous? Là, entre les tourterelles qui roucoulent, les pies qui jacassent et les merles qui trillent, deux conteurs prennent un café et discutent. Ces deux-là se sont rencontrés il y a des années, à 22 000 km d'ici, lors du festival Tembe, la parole, organisé dans les tribus Kanak. Quelques années plus tard, ils se sont croisés en Avignon lors du festival et les voilà ici, à l'occasion des sorties de la Bête de Seine, la fameuse scène nomade de la compagnie La Lune Rousse. Très heureux, ma foi, de se retrouver tous deux. J'ai le plaisir de vous laisser en compagnie de Anne-Gaëlle Gauduchot et de notre invité Kamel Zouaoui.
Bonjour Anne-Gaëlle.
Ça va bien?
Ben merveilleux, super, très très bien.
T'es bien réveillé?
Oui, c'est là, on peut dire que je commence à être réveillé après une très très agréable nuit passée sous le ciel de Saint-Herblain.
Alors, tu es conteur?
J'essaye humblement. Oui, là maintenant je peux le dire.
Qu'est-ce que t'as fait d'autre comme métier avant?
Moi je suis licencié de psychologie de l'université de Lyon 2. J'ai commencé le théâtre très tôt, à 8 ans, à Saint-Étienne. Et j'ai fait plein de métiers de service. J'ai travaillé au musée du Louvre, j'étais agent d'accueil. J'ai travaillé pour un cabinet d'avocats américain. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration. Plein de métiers différents.
Comment ça vient, ce truc d'un jour commencer à raconter des histoires et à te dire que ça pourrait être ton métier?
J'avais beaucoup d'appétence pour la parole. J'aime bien bien parler. Et en 2008, une amie m'offre Nasreddin. Je ne connaissais pas ce personnage. Et je commence à les lire, à faire rire mes voisins, mes voisines, mes amis. Et puis en 2008, en septembre, ma grand-mère quitte ce monde. Et pour l'accompagner dans son voyage ou pour m'accompagner par le début de sa transformation, le début de son absence, je me suis raconté les histoires la nuit et j'en ai fait un spectacle.
Tu te racontais les histoires de Nasreddin pour
oui,
toi?
Voilà, pour lutter un peu contre ma tristesse. La nuit, je m'associais à elle, je fermais les yeux et je me racontais les histoires en sa présence. Il y avait quelque chose d'un tissage de liens. Et c'est devenu un spectacle. Et un jour, mes amis m'ont dit, autant le faire dans un lieu. J'ai fait dans une cave d'un café du 11e arrondissement à Paris. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Ouais. C'était en novembre 2008.
Et ça veut dire que les histoires de Nasreddin, depuis 2008, elles te suivent?
Oui, depuis 2008, Les Passages d'un Fou, le spectacle que j'ai présenté hier. Et merci encore à La Lune Rousse pour cette belle invitation et ce bon moment de partage avec un public mixte, mélangé, intergénérationnel, interculturel, à l'image de ma manière de raconter Nasreddin. Et donc, depuis 2008, je fais ce spectacle, Les Passages d'un Fou. Donc, il y a un lien intime, d'amitié profonde, d'amour spirituel qui s'est installé entre Nasreddin et moi, Nasreddin le sage. Ce personnage m'accompagne, il est l'incarnation de beaucoup de belles valeurs qui me portent. On marche parfois l'un à côté de l'autre, souvent je le suis, parfois je suis son âne. Oui, il y a un très très fort lien.
On discutait de ça hier, tu disais ça a changé ma vie quand même.
Carrément.
Ce lien avec Nasreddin.
Carrément, je suis né à Saint-Étienne, d'une origine algérienne, berbère. Je suis né dans un quartier dans lequel on a appris très vite le être ensemble, le construire ensemble. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais stéphanois. C'est le lieu d'immigration de nos parents. Il y a une culture ouvrière, populaire, qui s'était mise en place, donc très très forte, forte identité locale. Et quand je suis arrivé à Paris, je suis devenu algérien, dans le regard des autres. Et là, j'ai commencé à me questionner sur mon algérianité, la diversité de mes cultures. Le travail sur Nasreddine en 2008 a commencé à m'aider à aller chercher cette part de mon histoire. C'est en grandissant que j'ai eu le désir d'aller le rencontrer. Et Nasreddine m'y a aidé. C'est-à-dire qu'en 2010, on a mis en place une date à Tlemcen et j'avais décidé d'aller à l'exact opposé de mon lieu, de mon histoire, en me disant si jamais ça ne me plaît pas, si l'Algérie ne me plaît pas,
oui, je comprends.
Au moins là, il n'y a personne que je connais de ma famille. Mmh. On me fera un vrai accueil et non pas un accueil teinté d'un amour parce qu'on est du même sang. Et donc, je suis allé avec Nasreddine là-bas. Ma sœur Sonia m'avait accompagné. Et mon projet, il était de vérifier auprès d'un public du Maghreb la crédibilité de mon travail. Je suis allé soumettre au regard des âmes élevées de Tlemcen à l'Institut français ce spectacle. Et j'avais vraiment la sincérité de dire si ça ne plaît pas, je changerai mon axe de travail. Parce que je ne voulais pas singer la culture de mes parents en utilisant le personnage historique de Nasreddine. Et donc, je suis allé là-bas et là, ça a été la révélation. Nous sommes 6 enfants et moi j'ai commencé, comme je te le partageais, le théâtre à l'âge de 8 ans. Donc de 8 ans à 11 ans, on a écumé toutes les salles de classe, les hôpitaux, les lieux de culture de la région de Saint-Étienne. Donc ma famille était habituée à cela. Ensuite, j'ai fait un bac théâtre. Et puis en arrivant à Paris, je m'étais vraiment éloigné de tout ça. Et c'est le départ vraiment de ma grand-mère qui m'a ramené sur ce chemin-là, ce qui a dû, je pense, être pour les gens de ma famille une belle respiration. De savoir que je retournais à quelque chose qui m'animait et me passionnait. Mais oui, ça a généré un bon plaisir dans la famille de savoir que je m'emparais de la parole.
C'est quoi la différence, en fait, entre un comédien qui fait un monologue et puis un conteur ?
J'ai le sentiment que le comédien, dans le contrat qu'il passe avec le texte et l'auteur dont il va narrer ou jouer le texte, s'engage à respecter ce qui a été écrit par un autre. Le conteur s'offre la liberté de faire évoluer l'histoire qui va le traverser. Et moi, pour exemple, tu as vu dans Nasreddine, j'ai théâtralisé ce conte. J'ai écouté mon corps et mon envie d'exprimer et je me dis qu'on peut ajouter à la parole la beauté et les mouvements du corps. Il y a plusieurs formes de contes, comme chacun le sait. Il y a des contes traditionnels où j'ai vu une fois en Algérie, en Kabylie, une dame qui m'a raconté une histoire d'une heure et demie, assise sur une chaise, et il n'y a que son doigt qui bougeait. Et pendant une heure et demie, tout l'auditoire, on était avec elle. Alors, on ne sait pas où elle nous a amenés, mais elle nous a amenés. Et la théâtralisation de certains contes, pour moi, me permet d'amener les gens vers un endroit et puis de les ramener ensuite, de ne pas les perdre sur le chemin. Certains, dans toute la diversité des publics qu'on rencontre, sont des cibles potentielles, des cibles heureuses potentielles pour tes contes, pour les contes, pour le conte. Et parfois, on a des formes de récits qui vont pouvoir donner le sentiment à ces personnes qu'elles sont exclues de l'histoire parce qu'elles ne vont pas comprendre. Et la théâtralisation, parfois, peut donner un soutien, un accompagnement, une canne pour aider ces gens vers la compréhension de l'histoire. Une fois, j'ai un ami, pendant le confinement, j'avais proposé un live sur Internet, et j'ai un ami de Colombie qui participait à ce live, et je racontais pendant une heure. Et ensuite, il m'envoie un message, et il me dit, « Cher ami, j'ai rien compris, mais j'ai tout compris. » Et là, ça m'avait donné une matière à réflexion d'importance. Il n'avait pas compris parce qu'il ne parle pas le français, mais il avait compris autre chose qui était passé. Quand je théâtralise, c'est aussi une possibilité d'aider, de proposer une forme d'accès à l'histoire, à une entrée différente.
théâtraliser ou pas, adjoindre au conte des objets, une mise en scène, jouer du corps, de la musique. Chaque conteuse, chaque conteur est différent et c'est ce qui fait la grande richesse de cette discipline aujourd'hui, probablement encore en recherche de ses contours contemporains. Pour Kamel, quoi qu'il en soit, l'important c'est la présence, être présent au moment et au public.
Pour moi c'est primordial en fait, dans ma pratique. Primordial que ce ne soit jamais la même chose. Si on considère que d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, on change, on évolue, le conte c'est une raison, une excuse, une heureuse excuse de mise en relation des gens entre eux. On disait autrefois d'une personne qui raconte avec une ou plusieurs personnes qui entendent. Et aujourd'hui, dans mon cheminement, mais un peu ésotérique, il y a même cet invisible-là qui nous accompagne, qui participe de l'histoire. Et il me semble que la réunion, faire communauté, refaire communauté, la réunion autour de l'histoire, l'histoire c'est quoi ? Du souffle, du son, et puis un mythe qui nous est venu, qui nous traverse, qui est là, qui s'invite en nous, qui parfois frappe à la porte de nous-mêmes et qui dit « est-ce que je peux entrer parce que j'aimerais passer par là ?» Parfois s'impose, parfois nous maltraite, parfois nous élève, comme Nasreddine me l'a fait. Et ça, pour qu'on puisse se réunir en énergie, les uns avec les autres, autour de quelque chose. Si j'arrive avec la certitude que ce que je vais proposer au public aura un effet à un endroit précis, à tel un, ça ne marchera pas. Si j'arrive avec la sécurité d'avoir un canevas à l'intérieur de moi et dans l'organisation que j'ai fait des histoires que j'ai envie de raconter, je vais pouvoir m'offrir d'aller essayer de scruter très humblement ces choses-là qui émanent des autres. Dans l'assemblée du conte et dans l'assemblée humaine en général, on est les miroirs les uns des autres. L'histoire, c'est un petit peu comme une clé polie qui demande à l'autre « est-ce que je peux accéder à un peu de toi ?» pour comprendre un peu de moi. Et il y a quelque chose du miroir qui, moi, me bouleverse dans la relation au public, surtout en cassant le quatrième mur, en sortant d'un texte trop écrit à la lettre qui ne nous permettrait pas d'être dans l'instant.
C'est le grand luxe du conte, c'est sûr.
Ouais, de faire ça. Une fois en Avignon, un ami m'avait prêté une semaine son théâtre pendant le festival. Et comme il me prêtait son théâtre, un jour, il a oublié de m'ouvrir la porte. Et je me retrouve avec le public en face du théâtre. Et
pas de salle.
Et je me dis, comment on va faire, etc. Et puis deux secondes après, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit, mais ton conte, tu l'as à l'intérieur de toi. J'ai la chance, sur cette forme-là, de ne pas avoir de décor. On va au bistrot. Et j'ai demandé, il y avait 10 ou 15 personnes qui étaient restées. J'ai dit, ça vous ennuie, on va se mettre juste à côté. Il y a un bistrot, on peut s'asseoir à l'extérieur et je vous raconte mon histoire. Et on est arrivé là-bas, le spectacle c'était « Regarde plutôt la mer », prends une tournée, un café, etc. Et puis je démarre. Et pendant une heure, j'ai raconté mon conte. Donc à un moment donné, ce qui aurait pu être quelque chose qui empêche a été quelque chose qui m'a enseigné. On possède l'histoire qu'on a envie de partager, celle à laquelle on a donné accès à nous. Je pense qu'il faut juste aller d'un cœur vers un autre cœur. Et là, on refait communauté, comme je te le partageais tout à l'heure.
Ce matin-là où il reçut la visite d'une vieille dame. Cette vieille dame avait sur le visage autant de rides qu'il y a deux jours dans deux années. Cette vieille dame avait la chevelure aussi belle et aussi longue que la deuxième sourate du Saint-Coran. Cette vieille dame n'était rien d'autre que la plus importante de ces gens. C'était la plus vieille. Alors Dieu m'aura donné suffisamment de temps sur cette vie pour rencontrer l'homme qui fait pleuvoir. Je ne vais pas te déranger, mais j'ai amené pour toi un poulet. Je voulais t'offrir un poulet, et s'il te plaît, ramène-le à ta femme. Elle doit être belle, hein, ta femme. Tu as bon teint, elle doit être belle, mashallah. Écoute, Joha, amène ce poulet à ta femme et dis-lui qu'elle vit de l'animal. Ensuite, elle le remplisse avec deux pommes de terre, une tomate, la moitié d'un oignon, des olifères, des olives noires et beaucoup, beaucoup de ras el hanout. Dis-lui ensuite qu'elle couse le poulet, qu'elle le fasse cuire pendant au moins 4 heures. Et tu verras, plus heures de pluie, que ta femme et toi, vous aurez le meilleur des poulets de tout ton village, comme tu es beau. L'air de rien, mesdames, messieurs, Nasreddin venait de recevoir son deuxième cadeau, des propres mains d'une bibliothèque vivante. Cette femme était la plus importante de ces gens, c'était la plus vieille. Il s'empressa alors de lui demander comment donc l'on peut garder autant d'humanité après avoir passé tant d'années parmi ces gens. Mais un chat, un gros chat noir comme ont parfois les voisins, profita de leur émotion pour mêler ses pattes dans leurs pas. Et tout chat qu'il était, il prit dans sa gueule le poulet. Il s'en alla si vite et si loin que Nasreddin ne put le rattraper. « Ce n'est pas grave, pensa-t-il. Je ne connais ni son père ni son grand-père, mais je le rattraperai bien plus tard. » Et la vieille dame, vieille qu'elle était, s'était mise à pleurer. « Ya Rabbi, mon Dieu, alors tu m'auras fait vivre tant de temps pour me montrer aujourd'hui que tu n'acceptes pas le bien que je fais aux gens qui m'entourent, mon Dieu. C'était mon seul poulet que j'avais à offrir à cet homme et avec j'y avais mis mon cœur, mon Dieu. Comment, hein? Comment donc maintenant vais-je pouvoir continuer de vivre et alors bé? Vieille dame, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, ne blasphème pas, n'insulte pas ta vie. Tu sais, Dieu, il accepte le bien que tu as fait aux gens. Il accepte même le poulet que tu m'as offert. Tu sais, ce chat, je te le promets, il ne fera rien de mon poulet. Il est parti si vite qu'il n'a pas pris la recette pour le cuisiner.
C'est pas pour dire, le conteur Kamel Zouaoui, en grand entretien avec Angel Goduchot. On y parle de Rumi, de poésie, d'invisible et de la parole comme énergie créatrice, comme engagement moral également.
Mais tu sais, Nasreddin, c'est quand même un outil patrimonial qui a été inscrit à l'UNESCO en 1996 comme appartenant au patrimoine immatériel de l'humanité.
Évidemment, tout le monde se demande s'il a existé vraiment ou pas vraiment, mais enfin, il y a des dates de naissance et de mort.
Bien sûr.
Je crois qu'on situe sa date de naissance vers 1200 et quelques. Tu dis qu'il a des noms différents, en Turquie, au Maroc, en Algérie, en Corse, en Sicile. Comment on l'appelle?
Alors, tu sais, il serait né en 1209.
1209.
À Konya, en Perse. Et Jalaleddin Rumi, qui est un grand penseur, philosophe de l'islam des Lumières, serait né en 1207. Nasreddin serait le penchant comique populaire du penseur Jalaleddin Rumi.
Oh, très beau.
Ça veut dire que la parole de Rumi, telle qu'elle a été amenée jusqu'à nous, s'adresse à un type de personnes qui sont parfois lettrées, ou en tout cas qui ont eu accès à... Et puis Nasreddin, ça serait un peu le bon sens populaire. J'aime à croire que Rumi est un peu Nasreddin et Nasreddin est un peu Rumi. Et quand l'islam a été révélé et qu'il y a eu l'islamisation, enfin, là, on dit que les histoires de Nasreddin ont voyagé avec les gens qui faisaient ces traversées. On attribue aussi à la route de la soie la propagation des histoires de Nasreddin un peu partout. Nasreddin, c'est porteur de foi. On attribue à Nasreddin des histoires qu'il n'aurait pas pu vivre de son vivant, c'était d'autres époques. Et chaque culture traversée, donc Afendi vers la Chine, Nasreddin, Moula Nasreddin, Otchababa vers la Turquie.
C'est la Turquie. Ouais.
Voilà. T'imagines que Chypre et la Turquie ont en commun Nasreddin. T'imagines que le peuple juif a les histoires de Nasreddin sous le nom de Shah, Shlemel, Shlomo, les variantes de ce personnage. Le Maghreb qui a totoisé dans sa pensée populaire, qui a totoisé l'histoire de Nasreddin, c'est Shah, Joha, les Corses, c'est grosso minuto.
Tu dis totoisé dans le sens où ils ont gardé plutôt les histoires drôles et moins... Il y a le côté moins inspiré...
Il y a le côté plus... idiot du village qui donnerait les leçons sans s'en apercevoir.
C'est ça.
D'ailleurs, on dit que Nasreddin se moque ni de Dieu ni des gens. Il se moque des gens qui se moquent des autres ou qui se moquent de la religion. Ils ne se moquent pas des faibles. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, en tout cas dans mon interprétation de ce personnage, il est un porteur de sagesse, mais la sagesse telle que la porte mon père ou les gens de chez moi, qui sont des gens d'une humilité, d'une simplicité extraordinaire, qui n'ont pas fait de grandes études et qui pourtant ont œuvré dans la vie de belles manières.
Il se passe quelque chose et tout d'un coup on dit « Ah oui, c'est comme l'histoire de Nasreddin. »
Ah, Nasreddin aurait dit quoi dans cette situation ? Un jour, je racontais à Paris...
C'est l'histoire à propos, quoi.
Voilà, il y a très longtemps, j'étais à Paris. Je racontais, il y a un monsieur iranien qui est venu me voir à la fin du spectacle, je te racontais ça, qui me dit « Vous savez, mon père me racontait les histoires du Hoxha. » Et votre spectacle me rappelle que je ne les ai pas encore racontés à mes enfants. Et il y avait une forme de solennité dans ce qu'il me disait, cet homme, qui m'a vachement aidé, parce que moi j'avais le sourire teinté de gâteau et de miel des gens du Maghreb. Quand tu leur dis Nasreddin, ouah, il se passe un truc, il y a une explosion dans les yeux, il y a un rire qui vient, il y a un truc. Et puis... cet homme-là, c'était vraiment une droiture, une sagesse, une solennité, moi, qui m'a invité à travailler sur les deux penchants de ce personnage.
On discutait hier des liens que les conteurs, en tout cas que certains conteurs, ou que le conte autorise en tout cas, avec l'invisible ou avec le divin ou avec ceux qui sont partis et qui sont quand même toujours là quand on raconte. J'ai un grand souvenir d'une racontée dans une tribu en Calédonie. Je pense que c'était sur la côte oubliée. Et des gens qui nous ont accueillis en disant « Vous êtes... vous arrivez, vous avez fait 20 000 kilomètres, bienvenue à vous et à tous vos ancêtres. Ouais. » Tout d'un coup, j'ai réalisé que personne ne me l'avait dit, mais que derrière moi, il y avait un monde. Et que je croyais me déplacer toute seule, mais que je ne me déplaçais jamais toute seule.
Tellement juste.
Tous là.
Et tu sais, on était ensemble, me semble-t-il, à Thio, quand il y avait eu la coutume d'accueil à Thio, en Nouvelle-Calédonie, pour le festival Tembe. Où un des porte-paroles du groupe avait dit ce que tu viens de narrer là, vous êtes venu de loin pour raconter des histoires à nos enfants, alors on va se faire humble devant vous, soyez vous et vos ancêtres les bienvenus. Et puis il avait dit une fois, on va demander à nos ancêtres de ne pas vous faire du mal pendant votre présence ici. Il y avait déjà j'avais ce travail sur le lien à l'invisible. Et moi, je suis d'une famille laïque, je suis très très laïque, j'aime la République, ses valeurs, pas ce qu'on en fait aujourd'hui, mais ce qu'elle est dans son modèle de proposer une émancipation pour l'humain. Bon, voilà, on en discutera à une autre émission, mais j'ai une spiritualité. Ma famille, on a toujours été éduqués dans l'amour de l'autre et dans la relation au divin à travers l'autre. Aimer son voisin, c'est aimer Dieu. Aimer la nature, c'est aimer Dieu. Être honnête en soi, waouh, c'est se rapprocher du divin. Et donc moi, j'ai travaillé sur ça. Et ma spiritualité a évolué, elle n'est pas dogmatique. Je suis musulman parce que j'aime le message de cette religion, mais je ne suis pas un pratiquant qui aurait envie que tout le monde devienne comme moi. J'ai ma spiritualité, j'ai mon cheminement, et je crois que ma religion à moi, c'est la rectitude. Et un jour, j'étais dans un lycée en Ile-de-France et j'avais fait un spectacle, et à la fin du spectacle, un des enseignants me dit « J'espère vous accueillir à nouveau ». Et j'étais heureux de cette invitation, et avec sincérité, je lui ai dit « Avec plaisir ». Et 3 ans plus tard, il me recontacte et il a été muté en Arabie Saoudite, au lycée français de Jeddah. Et il me convie à présenter Nasreddine là-bas. Et je me retrouve à la Mecque. Et au moment où le rituel impose, enfin demande une entrée par un lieu précis, donc l'entrée principale de la Mecque, j'entre dans la Mecque, accompagné de tous mes invisibles. Ça a été un sentiment énorme, ça, de savoir que c'est comme si j'avais un drapeau et que dans ce drapeau, il y avait un peu de tous les gens qui peuplent ma vie, les gens que j'ai rencontrés, mes ancêtres, mes parents, tous ceux que j'aime, et d'autres qui ont petit pris leur place, et puis ils étaient les bienvenus. Et j'entre à la Mecque, et là je vois la Kaaba, et je m'effondre. Et mes deux accompagnateurs me disent « Ah, ça fait ça la première fois qu'on vient à la Mecque. » Si j'avais pas ces drapeaux invisibles à porter, je pense que je me serais évanoui. Je me dis « Mais en fait, c'est ma parole qui m'a amené ici. » Et ça m'a donné une obligation, une invitation à considérer qu'est-ce que c'est pour nous dans un monde tel que celui qu'on est en train de traverser. Qu'est-ce que c'est pour nous raconter une histoire? Qu'est-ce que c'est pour nous frapper à la porte de l'autre et lui demander accès? Qu'est-ce que c'est pour nous, qu'est-ce que ça implique pour nous, humains, d'aller en direction d'un autre humain et de tout son cortège d'invisibles et de dire, est-ce qu'on peut faire communauté? Sans faire trop d'ésotérisme, c'est arrivé à la Mecque la première fois, m'a mis directement sur ce chemin-là de l'autre.
Et tu m'as dit hier, à ce moment-là, je me suis dit, en effet, c'est ma parole qui m'a amené jusqu'ici, mais c'est aussi mon intégrité, ma sincérité. Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, et qu'est-ce qui se passe?
Carrément.
Si tout d'un coup, je marche de travers, je fais l'inverse.
Ah mais ça a été, ça a été vraiment ça. Pour moi, le passage à la Mecque, c'est une douche spirituelle. Et il y a eu cette douche froide très rapide. C'est de me dire, de constater en si peu de temps, en 3 ans, c'est quoi 3 ans? D'un spectacle dans un lycée d'Île-de-France et je me retrouve invité à la Mecque alors qu'il y a des milliards de gens. C'est comme un guitariste que tu irais prendre dans la rue et puis tu dis, au fait, il y a l'Olympia qui t'attend. Et puis c'est blindé, puis ça serait bien que tu viennes. Parce que tout le monde n'ira pas. Et je me retrouve là parce que j'ai cru en un personnage, j'ai raconté une histoire, j'ai donné de moi, j'ai cherché. Et je me dis, mais sincèrement, oui. Avec une intention sincère. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais merde, et le jour où je vais faire semblant, si je fais semblant,
qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que ça va m'amener?
Thank you.
C'est la parole qui m'a amené ici, dit le conteur. Conduire sa parole de manière impeccable, comme dirait le sorcier des romans de Carlos Castaneda. Nasreddin est donc, vous l'avez compris, le personnage qui mène la parole conteuse de Kamel Zouaoui, mais pas seulement.
Tu as commencé par cheminer avec Nasreddin, ça t'a amené vers d'autres histoires que tu as écrites.
Oui, j'ai composé trois autres spectacles. Il y a une trilogie Nasreddin, trois spectacles, et puis il y a trois autres spectacles de contes contemporains que j'ai composés. Il y a Regarde plutôt la mer, il y a Le monde, ce beau village, où je raconte mon cheminement de conteur, et puis il y a un jeune public, Contes des deux rives. Il y a des idées qui me viennent, enfin bon, chacun a sa méthode, et puis d'un coup j'entends des choses, il y a à l'intérieur de moi, peut-être dans ce travail, sans révéler trop de choses de nos intimes, parce que chacun fait son chemin comme il peut, mais dans ce travail sur moi, il y a des zones qui se présentent à moi, et j'ai envie de dire des choses, de questionner, donc il y a ces histoires qui se mettent en place, puis ça marche.
Est-ce que tu dirais que le travail d'un artiste, et peut-être d'un conteur, est forcément politique ?
Il est, à mon sens, teinté d'un questionnement. Moi, j'ai essayé de voir un peu ce que je proposais comme histoire, et je suis vachement sur l'exil, je suis vachement sur le lien entre les cultures. Alors que j'ai aucun problème dans mon cheminement. Moi, je suis très très fier d'être franco-algérien, d'être kabyle, d'être stéphanois, d'habiter à Paris. Ça me va très bien. J'additionne en vérité. Mais peut-être que autour de moi, j'ai entendu des gens qui cherchent. Là, j'étais à un festival il n'y a pas longtemps où un monsieur était italien, sa femme était marocaine et la gamine, l'enfant qu'ils ont eu ensemble, n'arrivait pas à trouver chaussure à son pied. Et un des contes que j'ai proposé l'a mis dans une très grande émotion et lui a offert comme quelque chose qui pourrait répondre à un de ses questionnements. Donc, si la politique c'est ça, je pense que tout est politique dans nos manières de raconter, en tout cas dans ce qu'on propose de contes contemporains et dans ce que les histoires contiennent d'enseignements, d'informations, de revendications. Moi, je crois que oui, en vérité. Mais dans mon cheminement, j'utilise la finesse. C'est peut-être Nasreddin qui déteint. Je fais léger mais copieux. Je pense que voilà, une fois j'étais à Pernefontaine pour un festival. Pernefontaine, c'est le lieu d'une ancienne députée Front National. Les organisatrices m'avaient fait venir avec Nasreddin dans les jardins et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc je racontais en extérieur dans cet endroit. C'était politique pour moi d'être là, raconter Nasreddin là. Et le lendemain, il y avait une table ronde organisée avec des anciens d'Algérie. Et j'assiste à cet échange, beaucoup de paras, des gens qui ont quitté l'Algérie. Enfin, c'était très ouvert, mais c'était teinté de beaucoup d'émotions.
C'est beaucoup aussi d'émotions. On parle d'une guerre quand même, donc de souffrance et tout ça.
D'arrachement à un lieu de naissance. Ces personnes sont nées dans un lieu, elles ont dû partir, l'histoire est ainsi faite. Ouais. Et à un moment, on me demande, et toi ? Alors, je me retrouve autour de toutes ces paroles, et toi, t'en penses quoi de ce truc ? Et j'ai raconté l'odeur du couscous. Et j'ai dit, voilà, ma réponse, c'est mon conte. Donc mon action politique, bien entendu, je suis un citoyen qui participe et qui fait plein de choses, mais ma pensée, ma parole, mon expression politique, elle passe par ce que mes contes ont envie d'amener jusqu'aux autres. Et c'est cette histoire qui a ensuite généré une émotion certaine, qui nous a tous mis sur un même pied d'égalité. Mmh. On est tous à un moment d'un endroit, on chemine, on a un grand point commun chacun. On entre dans ce monde à un moment donné. Et on a un autre grand point commun, c'est qu'un jour on en sort.
On va en sortir, oui.
Mais voilà, je trouve que nous, les conteurs et les conteuses, on a chacun le chemin qu'on voudra, mais on a quand même une chance extraordinaire, c'est de pouvoir retisser les liens entre plein de dimensions différentes, entre les gens, dans un endroit, dans un mouvement du temps, dans lequel tout concourt à faire que les gens s'isolent, se séparent, se déspiritualisent, s'abîment la vie en s'attachant à des choses qui sont tellement futiles au détriment de choses tellement essentielles. On a peut-être cette chance de pouvoir alerter par les histoires qui nous traversent. On peut quand même faire cette première occupation de l'humain, c'est de garder conscience de sa propre existence, de sa propre finitude et de cette part d'éternité que l'on confie au conte. On va passer, toi et moi, dans 50, 60 ans, on ne sera plus ici sous cette forme, et pourtant les histoires seront encore là.
Oui, elles étaient là avant.
Elles étaient là avant. Donc on a peut-être l'opportunité pour certaines et certains d'entre nous d'essayer d'aller en soi trouver un écrin ou retrouver un écrin pour déposer temporairement ces histoires qui nous accompagnent.
C'est pas pour dire, nous sommes toujours au jardin avec Kamel Zouaoui et Angel Goduchot. Le vent dans le micro, vous inquiétez pas, c'est les oiseaux. Et la parole.
On est au 21e siècle quand même, donc des écrans, donc des moyens techniques, donc de l'information qui passe très vite. Et comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui ont envie de cette chose si simple, de raconter des histoires ou d'en écouter? Avec, bon, on peut rajouter tout ce qu'on veut comme technique, hein, mais comme tu le disais, on peut aussi s'asseoir dans un bistrot, n'importe où, et raconter. Qu'est-ce qui fait que ça existe encore alors qu'on a mille autres moyens de raconter des histoires? Le cinéma est super fort pour ça.
Moi, j'aime bien dire que le conte, c'est du cinéma magique. C'est le cinéma sans la caméra extérieure, c'est la caméra intérieure. Et de même, que l'humain se questionne sans en avoir conscience sur sa propre finitude, sur son existence, sur le pourquoi. Oui. Tu disais à un enfant qui te posait la question à quoi ça sert de vivre puisqu'on va mourir? Et pourquoi on cherche tout le temps? Certains contes apportent des débuts de réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Et je pense qu'on a un souffle de vie, on a quelque chose que fort heureusement on ne maîtrise pas.
Je suis vraiment intéressée par cette chose-là que tu viens de dire. Que fort heureusement, on ne maîtrise pas.
Ah oui,
parce qu'en réalité, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, comme conteuse, mille fois, je me suis dit, mais à un moment, j'ai cru que j'allais comprendre cette histoire. Je suis comprise à l'intérieur, peut-être, une toute petite chose à l'intérieur de cette grande histoire, mais il n'y a pas moyen de maîtriser ces histoires,
non.
En réalité.
Non. Pour moi, une histoire, c'est un organisme vivant. Nasreddin, je l'ai proposé plus de 1400 fois maintenant, depuis 2008. Et je rigole encore. Quand je raconte et que je fais plusieurs personnages, je ris de moi, je ris de ce qui se passe. Il se passe des choses assez extraordinaires. Je pense que les histoires que l'on raconte sont vivantes. Elles s'enrichissent, s'appauvrissent, un peu comme cet arbre qui est à côté, si tu l'entretiens pas, si tu la mets pas. Et donc, cet organisme vivant va s'enrichir des gens qu'elle va rencontrer, de l'énergie des gens, et elle va te porter, elle va t'accompagner vers un ailleurs. Et elle va, faut pas le dire à tout le monde, mais parfois mes histoires me parlent, comme à tout le monde. Ah ben, j'ai pas envie d'être là aujourd'hui, tu me laisses tranquille. Oh là, tu m'as maltraité. Ah tiens là, merci. Tiens, ça va, je t'ai fait du bien. Et il y a ce rapport dans notre intime, notre intérieur, qui s'établit avec nos histoires, un partenariat, une histoire d'amour parfois. Et cette mise en relation de ce cheminement, on a un dictionnaire interne et on va proposer ça aux autres.
Le fait qu'on accepte qu'on ne maîtrise pas, il y a du sauvage dans ces histoires. Il y a du non maîtrisé et c'est parce qu'on est d'accord que ça ne soit pas maîtrisé et que ça nous surprenne et que ça soit vivant. J'ai l'impression qu'on est effectivement dans un temps, dans un repli du temps de l'histoire où on essaye de tout maîtriser.
Dans ce partenariat que tu as avec ton histoire, il y a « allez, on sort, on va aller vers l'autre ». Donc tu racontes l'histoire et après avoir raconté l'histoire et toi, revenez ensemble à la table de la négociation et de l'analyse. Tiens, qu'est-ce qu'on devient là, dans cette chose vivante? Qu'est-ce qu'on vient de vivre avec ce public? Mais je trouve qu'il y a une illusion de la toute maîtrise.
C'est pas pour dire, grand entretien avec le conteur Kamel Zouaoui.
Il y a des civilisations dans lesquelles personne n'est autorisé à raconter avant d'avoir un certain âge. Parce qu'on considère qu'il faut avoir traversé des choses. Et donc, bien sûr qu'on donne de soi. Ouais.
Puis aussi de ce qui nous entoure. Ouais. On m'avait convié après le Covid, donc corps libéré, à un festival à l'étranger, mais par Internet. Et j'ai dit non. Non. Il y a une dimension qui manque. Justement, celle qu'on ne maîtrise pas, qu'on transporte avec nous, celle qu'on donne, quand je dis donner de soi, de ses doutes, de tout ce que tu as très, 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 très justement décrit. Et cette invitation à ce festival par Internet, j'ai dit surtout pas. Ça ne doit pas devenir la norme. Chaque être accompagne, est accompagné de quelque chose qui va s'adresser aux gens qui vont l'accueillir. Donc si nous, les conteurs ou conteuses, ou moi en tout cas, je commence à travailler de chez moi ou de mon jardin et raconter mes histoires. Et puis, je change de métier. L'époque est l'époque. Et la parole est la parole. L'époque passe, change, elle est changeante. Mais la parole, elle est là. Tant qu'il y aura du souffle et du son, de la vie, tant qu'il y aura ces choses-là qu'on cherche, la parole demeurera. Nous, on passera. Et l'époque changera. Et j'avais eu cette réflexion après de me dire, mais il faut qu'on s'adapte à l'époque. Il faut que notre parole, en tout cas celle qu'on a la prétention d'accompagner ou par laquelle on est accompagné, transcende l'époque. Au premier confinement, je faisais un live sur Facebook, 1 heure, tous les 2 jours, à 15h. Ça m'a aidé, moi, à enrichir mon patrimoine de contes, parce que j'en lisais tous les soirs, à pas trop souffrir de ce truc-là qui était terrible et à me sentir utile. Et au début, je le faisais vraiment acte de résistance et de solidarité. Puis ensuite, je me suis fait payer. Et j'ai pu faire des cachets pendant le confinement. Donc, j'ai pu rejoindre la nécessité, le contexte de l'époque sans perdre cette nécessité en moi de raconter. pour moi et pour les autres.
Oui, donc ça marchait comme ça aussi. Ouais. Ça marchait aussi en ligne, sans ton corps présent.
Et... Mais c'était parce que l'époque, la contrainte de l'époque le demandait. Ce que j'aimerais partager par ça, c'est que la parole doit demeurer. Si le corps est contraint, l'époque l'empêche, on doit quand même cultiver. Si on est dans une époque où la parole publique est interdite, eh ben on doit garder notre parole privée, ne pas la taire. Si on est dans une époque où le corps est contraint et on doit rester chez nous, eh ben la parole doit exister quand même. Très humblement, je me mets au service de ça. Par égoïsme, parce que je veux donner du sens à ma vie d'homme. Et raconter des histoires donne du sens à ma vie. Et je trouve que ça, c'est très très important, pour moi en tout cas. J'étais dans un établissement dans le nord de la France, je racontais pour des élèves de CP. Et puis tous les élèves étaient ancrés, ils étaient assis. Et puis il y avait une élève qui avait un habit de princesse, la Reine des Neiges, qui était un petit peu flottante. Tout le monde était assis et elle était flottante. Et je me suis dit, elle est porteuse de particularités. Donc je ne vais pas trop... Et à un moment donné, je demande à la maîtresse, je dis à cette jeune fille, cet enfant, qu'est-ce qu'elle a ? Elle dit, elle, on ne comprend rien de ce qu'elle dit. Il y a 6 mois qu'elle est là, elle vient du Brésil. Et donc sa différence, je l'avais entendu, dans la vision de la scène, comme un handicap. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai raconté une histoire en portugais pour la gamine. Et là, elle a arrêté de flotter, elle a arrêté d'être seule au milieu des autres. Et elle s'est arrêtée, elle a compris que je lui parlais. Et ensuite, en portugais, je lui ai dit, j'ai la chance de parler le portugais, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien t'asseoir avec tes camarades ? Je vais te raconter une histoire en français, puis après je te la traduirai. Et la maîtresse crie au miracle, tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Et donc elle avait, peut-être parce qu'elle n'a pas les outils, elle avait mis cet enfant dans une case porteuse de particularités, on la laisse faire ce qu'elle veut, on attend que ça passe, alors qu'elle avait la richesse de venir d'un ailleurs. Et je lui ai dit, en partant, pour ne pas pleurer, je lui ai dit, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois par semaine, vous lui apprenez un mot en français, puis elle vous en prend un mot en portugais. Comme ça, vous allez enrichir toute la classe de ce truc-là. Et la parole, dans cet endroit-là, qui vient de ressurgir dans ma mémoire, a permis que ça existe.
Kamel Zouaoui, au micro de C'est pas pour dire, avec Angèle Goduchaud. Il est question de la parole comme son, souffle, énergie agissante. C'est une vision à la fois cartésienne, scientifique. On sait depuis longtemps qu'on peut briser une vitre ou faire trembler un pont avec du son, avec des ondes. Mais aussi mystique, magique...
Pour que je comprenne bien, on n'est pas en train de parler de la parole, le sens de la parole. On est en train de parler de l'énergie de la parole,
oui,
non ?
Le souffle. Pour l'islam, par exemple, je ne suis pas un islamologue non plus, mais pour l'islam, on va souffler à de l'eau, à un verre d'eau, à une bouteille d'eau. on va souffler la première sourate du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Chacun pourra trouver la traduction, c'est « Je recherche protection dans mon Seigneur contre le mal des hommes et des djinns, des invisibles ». Et donc on souffle cette première sourate du Coran, qui est la sourate d'ouverture, Fatiha, dans un liquide de l'eau en général. Et puis on peut ajouter les sourates de protection. Et la personne qui se sent malade ou gênée va boire ça.
Hmm.
Tu te rends compte ?
C'est de l'homéopathie.
Ouais.
Mais, spirituel.
Bien sûr, les Amérindiens ou toutes les populations dites premiers, les peuples premiers ont ces pratiques-là par la parole, par le feu, par et ça c'est quand même extraordinaire dans nos époques où on est super technologisé de reprendre conscience de ce soin-là. Parler avec un docteur, le docteur Branche du CHRU de Poissy, qui organise un colloque sur soins palliatifs et médecine alternative. Et dans la préparation de cet événement, je parlais de l'auto-envoûtement. C'est dire que la parole, la suggestion, l'auto-suggestion négative, on peut se faire du mal à soi.
Bien sûr.
Par la pensée, et on peut, je dis dans un spectacle, la parole c'est du venin, parfois pire que le venin du serpent, et on peut souhaiter dire, agir le mal par les mots, par cette conjugaison du souffle et puis du son. Donc pourquoi ne pas travailler à faire qu'on puisse insuffler, partager, transmettre du bien par la parole ? Et le silence, c'est notre meilleur pote, c'est le meilleur ami des mots, pour moi en tout cas. Comme je commence à saisir la force du silence, eh ben j'en ai très peur. J'ai l'image d'un spectacle où d'un coup il y a 15 secondes, 30 secondes de silence. Et il se passe quelque chose, c'est palpable. Tu peux toucher ce silence. C'est peut-être un nouvel axe de mon travail, c'est quelle place je vais donner au silence. Je pense que c'est un joli lieu, le conte, pour ne jamais cesser de se questionner. Ce n'est pas parce que le brouillard est épais que le soleil n'existe pas. Et parfois, on peut, grâce à nos histoires, essayer de souffler sur ce brouillard.
Oui, et puis les histoires maintiennent aussi la mémoire du fait que d'autres gens avant nous se sont retrouvés dans le brouillard et d'autres gens avant nous ont traversé le brouillard à des moments. C'est aussi un vrai soutien sur le chemin quand même.
Carrément.
Un rappel que on n'est pas tout seul.
Je pense que tout est là depuis toujours. Et c'est nous, moi, toi, qui devons faire un travail pour retrouver cette connexion en nous. Avec ce tout, c'est toutes ces choses-là qui sont là, quoi.
C'est pas pour dire, se termine doucement, tranquillement, pour aujourd'hui. Merci Kamel Zouaoui d'avoir partagé un peu de ton expérience du conte. Merci à Anne-Gaëlle Goduchaud pour l'avoir accompagnée dans cette plongée réflexive. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter sur le site de C'est pas pour dire. Vous pouvez nous envoyer vos avis et suggestions sur la page Facebook C'est pas pour dire. On passe à la radio. Merci, à la prochaine. Amis de la parole, salut à vous tous.
spéciale dédicace à Sylvain.
À Sylvain Lornier.
Lornier.
À Josiane, ouais. À Juliette Maes,
ouais.
À Daniel, à tous les amis de Thio, de Tembeu, La Parole, Festival La Parole. Et puis à nos amis conteurs et conteuses qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Je voudrais embrasser Catherine Ancoba, que j'aime beaucoup, Elisabeth, et puis tellement de gens, tout le monde.
Kamel Zouaoui,
allez,
merci.
À bientôt les amis, et merci pour l'invite.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.
A dream.